à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alexandra Dimont et je veux vous retracer les grandes lignes de mon travail sur la déesse Corée Perséphone. J'ai travaillé sur ce sujet pendant 6 ans dans le cadre d'une thèse de doctorat présentée en 2012 à l'Université de Strasbourg sous la direction de M. Laurent Pernon, membre de l'Institut. Je suis en effet lauréat de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. La médaille Gustave Mendel m'a été décernée pour cette étude. Le mythe de Corée Perséphone, souvenez-vous, c'est l'histoire d'une jeune fille, Corée, qui cueille des fleurs avec les filles d'Océan. Soudainement, la terre s'ouvre et Pluton, le roi du monde souterrain, l'enlève et l'emporte sur son char doré pour la conduire vers son royaume. Sa mère Déméter la recherche partout. Dans ses errances, elle est amenée jusqu'à Eleusis, où elle fonde les mystères. Après l'intervention de Zeus, la jeune fille est enfin libérée par son ravisseur. Mais elle est victime cette fois de sa ruse. Il lui donne à avaler quelques grains de grenade. À cause de cela, elle ne pourra rester que 1/3 de l'année auprès de sa mère et il lui faudra revenir chez Pluton pour y demeurer pendant les 2 autres tiers. Avec Corée Perséphone, nous avons donc affaire à une divinité duelle, sans place fixe ni condition unique, mais en perpétuel mouvement entre 2 mondes, le monde souterrain et celui des vivants, ainsi qu'entre 2 statuts, le statut de jeune fille et celui de femme mariée. Cette dualité, marquée par le mythe, est aussi inscrite dans son nom double. Elle est tantôt la déesse aux 2 noms, tantôt l'une de 2 déesses formant couple, Déméter et Corée, justement nommée le 2 déesses, exprimée par le duel. Son mythe, tel que je viens de résumer, a été largement analysé et mis en relation, soit avec la production agricole, soit avec le royaume des morts. Dans mon ouvrage intitulé « La déesse Corée Perséphone, mythe, culte et magie en Attique », j'ai plutôt voulu répondre à la question de savoir si cette déesse maintient une identité en dehors du couple qu'elle forme avec Déméter sur le territoire de l'Attique. Il s'est agi aussi d'étudier la façon dont elle apparaît dans la religion de la polis et son rôle dans d'autres manifestations religieuses des anciens en dehors de la religion civique. En somme, je voulus savoir à quelle Corée ou à quelle Perséphone croyaient les Athéniens. L'étude des différents aspects de la divinité anatique est fondée sur les sources épigraphiques, archéologiques et littéraires. La période allant de l'époque archaïque à la fin de l'Antiquité. L'analyse de l'étymologie des noms de la déesse m'a permis de remarquer que l'élaboration de l'étymologie du nom ou d'une épithète de Corée Perséphone donnait l'occasion à un auteur ancien de s'exprimer plus amplement sur des questions cultuelles ou mythologiques. De Platon à Eustache de Thessalonique, en passant par les scolias byzantins, de nombreuses étymologies du nom de Perséphone ont été proposées par divers auteurs, souvent inhabituelles, parfois même insolites. Certaines étymologies interprètent le nom à partir du mythe de l'enlèvement de la déesse. D'autres le mettent en relation avec la production agricole et la végétation. D'autres encore en relation avec le meurtre, parfois dans un sens métaphorique, se rapportant à la mort de la nature et de la végétation. L'image de la déesse Corée Perséphone a-t-elle modifié au fil du temps? La réponse est oui. En effet, il y a une nette évolution de l'image de Perséphone. Elle est d'abord reine des morts, seul aspect de la déesse présent dans l'épopée homérique. Puis elle devient fille de Déméter, ou jeune fille idéale, suite au mythe élaboré par l'hymne à Déméter à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans l'hymne, Perséphone acquiert périodiquement le statut de Gunée, la femme, aux côtés d'Hadès, tout comme celui de jeune fille aux côtés de sa mère Déméter. Mais même en tant que Gunée, Perséphone n'a pas la fécondité qui caractérise la femme. Elle reste l'épouse stérile d'Hadès, tout comme dans l'Odyssée. Toutefois, la mythologie orphique réserve à Perséphone le sort désiré de la mère. Mais c'est une mère de divinité chthonienne et effroyable, comme Dionysos Boulos, le Zeuménide ou Mélinoé. L'euphémisme des noms cache bien entendu la peur et la terreur de la mort que les divinités incarnent. Pour continuer notre parcours dans le temps, il faut signaler qu'à l'époque impériale, l'interprétation du mythe devient plus libre et de nouvelles approches sont proposées ou mises en évidence. Corée et Perséphone sont examinées séparément et chacune acquiert des propriétés différentes. Les stoïciens et les néoplatoniciens, s'appuyant sans doute sur une conception pythagoricienne du sort des âmes après la mort, dissocient Perséphone du monde des morts et de la terre et l'associent au monde céleste, où réside le meilleur de l'homme, à savoir l'âme et l'intellect. Dans ce cadre, son nom est apparenté à la lumière. Corée, elle, est identifiée à la lune et à la vue, puisque la lune acquiert le rôle d'œil du ciel. Cette interprétation est développée dans le traité de Plutarque, sur le visage qu'on voit dans la lune. Cette association de Corée à la vue se fait également à travers l'homonymie entre le nom de la déesse et la pupille de l'œil qui reflète la lumière, comme la lune reflète la lumière du soleil. Et l'interprétation fonctionne en parallèle avec le vocabulaire de la vue, exploité dans les mystères de l'Eusis, pour décrire l'état d'illumination des initiés au mystère de l'Eusis et pour qualifier l'utilisation de la lumière dans le rituel eleusinien. Je pense avoir démontré là que Corée et Déméter étaient sans doute des divinités guérisseuses à Eleusis, avec une certaine prédilection pour la guérison des maladies de la vue, surtout à l'époque impériale. Enfin, dans l'œuvre des philosophes néoplatoniciens, notamment de Proclus, Corée reste dissociée de Perséphone. Corée incarne dans la pensée de Proclus la qualité virginale et constitue avec Artémis et Athéna une triade zoogonique, alors que Perséphone préside à cette triade. Comme on le voit, les versions du mythe sont très diverses en Attique. Cependant, notre attention est également attirée par la manière dont cette divinité était adorée. En effet, Corée Perséphone, comme toutes les divinités grecques, comporte deux aspects. Il y a d'un côté les mythes et les interprétations intellectuelles, comme nous venons de le voir. Et d'un autre côté, il y a les rites, le culte. Son culte présente deux axes principaux. Le premier, ce sont les mystères de l'Eusis, précédés de l'initiation préalable au petit mystère d'Agra. Différents lieux d'Attique pratiquent ce culte à une échelle locale dans des sanctuaires appelés Eleusiniens. Le deuxième axe est celui du culte rendu à la déesse dans le cadre de la fête féminine des Thesmophories. La fête était célébrée dans de nombreux lieux en Attique, dans des sanctuaires nommés Thesmophoria, ou, si le dème ne disposait pas d'un tel sanctuaire, dans le lusignon local. La fête des Skira, célébrée à la mi-juin, et les Aloa, en janvier, étaient aussi des fêtes féminines consacrées à Déméter et à Corée. La question qui se pose alors est la suivante. Est-ce que le rituel des fêtes a évolué au fil des siècles? Les évolutions du culte que j'ai pu constater représentent une part minime de l'ensemble des rites secrets de l'Eusis, qui sont restés inchangés jusqu'à la fin de l'Antiquité. De même, le respect dont les mystères de l'Eusis jouissaient est resté intact au fil des siècles, nous cachant, une fois pour toutes, les secrets d'initiation. Quant aux thesmophories, cette fête féminine répandue dans tout le monde grec a fini par acquérir en Attique un caractère purement politique. Ainsi, seules les épouses légitimes des citoyens athéniens étaient admises à la célébration de 3 jours. Cette participation valant justification du statut légal de l'épouse et par conséquent attestant la légitimité de ses enfants. Les 2 déesses sont qualifiées aussi de divinités protectrices de la cité d'Athènes. Corée Perséphone est également présente en dehors du cadre de la religion civique, c'est-à-dire dans un cadre privé. Perséphone apparaît comme l'une des principales divinités invoquées dans les tablettes d'envoûtement retrouvées au cimetière de céramique et dans les puits de l'agora d'Athènes, aux côtés d'Hermès et d'Hécate. Elle n'a rien ici de l'aspect somptueux de Corée dans les mystères de l'Eusis et fait partie des puissances maléfiques souterraines, invoquées pour infliger du mal à un adversaire. Cette image est omniprésente dans les activités magiques pratiquées en secret à partir de l'époque classique et jusqu'à la fin de l'Antiquité. Je dois dire que j'étais étonnée de constater que, contrairement à d'autres endroits du monde grec, aucune tablette d'envoûtement n'a été retrouvée dans les lieux de culte de Déméter et de Corée en Attique. Cependant, quel que soit le lieu où elle est pratiquée, la magie est tenue à distance par les mystères de l'Eusis. Il s'agit probablement là d'une autre preuve du respect du monde grec envers les rites sacrés. Et voici la mosaïque des différents aspects de Corée-Perséphone presque achevée. Pour compléter l'image de la déesse, rappelons que Déméter et Corée sont également présentes dans la vie quotidienne d'Athènes. Les femmes athéniennes juraient par les 2 déesses dans leur vie quotidienne. Quant aux pèlerins, après avoir fait dans la plupart des cas un long voyage pour s'initier au mystère de l'Eusis, les sources anciennes nous ont fourni à leur propos un détail intéressant de religiosité. Après leur initiation, on mettait à part les vêtements portés pendant les rites, afin de les utiliser comme linge pour les nouveau-nés. Sans doute pour que les nourrissons reçoivent la protection de 2 déesses, et par conséquent leur grâce tout au long de leur vie. Nous pouvons constater qu'en Attique, l'image menaçante de Perséphone est éclipsée dans la religion civique par celle de Corée, qui figure dans la plupart des décrets attiques et à laquelle maintes cités rendent officiellement hommage. Pour conclure cette recherche sur le rôle de Corée-Perséphone en Attique, empruntons l'expression de Jean-Pierre Vernant en la modifiant quelque peu. Les céréales ne sont pas Corée, mais 2 Corées. Une Corée-Perséphone bien au-delà d'elle, puisqu'elle les englobe au sein d'une puissance qui s'étend à des réalités non plus physiques, mais psychologiques, éthiques ou institutionnelles. Dans les croyances populaires, Perséphone est restée la reine du monde souterrain, tandis que l'image menaçante de la déesse est gommée par les institutions athéniennes au profit d'une représentation codifiée, mais rassurante, de la civilisation dans le cadre des thesmophories ou celui des mystères de l'Eusis.